L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue sur BFM Business et l'atelier numérique et encore une fois tous nos vœux de bonheur pour cette année 2016 qui vient de débuter. On vous a souhaité nos vœux pour le best-of il y a une semaine tout pile. On réitère ces vœux, tous nos vœux de bonheur et plein de bonheur high-tech, hein, puisque c'est un peu quand même le thème de ce rendez-vous que vous retrouvez tous les samedis sur BFM Business, l'atelier entre 16h et 18h avec autour de cette table Nathalie Doré, Jean de Chambure, Aurore Géraud, Antoine Cyr et Lila Megraoua. Bonjour à tous et bonne année.
Bonne année.
Bonne année.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette année 2016? Ben vous savez quoi, justement, on va en parler dans un instant avec vos tendances pour l'année 2016. Et il me tarde d'écouter celle d'Antoine qui va être, vous allez le voir, sans doute hyper pointue.
Oui, les tendances pointues, c'est la tendance de l'année 2016.
La tendance pointue. Au menu de cet atelier un peu particulier, puisque c'est vrai que la saison repart sur les chapeaux de roue, je serai au CES avec Nathalie Doré dans quelques minutes. On vous dressera un petit peu les grosses tendances de ce CES de Las Vegas, le grand salon des nouvelles technologies. On interviewera aussi quelques-uns des grands acteurs de ce CES durant cet atelier. Notre focus startup, notre enquête de l'atelier, on s'intéressera tout à l'heure aux applications industrielles de la réalité augmentée avec Renault, Airbus et la SNCF. On s'intéressera aussi à notre dossier de l'atelier US tout à l'heure, notre French Tech Tour, Montpellier qui est toujours en avance de phase en matière de Smart City. Et puis le crash test d'Antoine tout à l'heure, Antoine. On parlera de quoi dans ce crash test, le premier de l'année 2016?
Eh bien, on va parler d'un produit qui va être très tendance en 2016, qui est le Nuoc Mam.
Le Nuoc Mam. J'ai du mal à le dire.
Le Nuoc Mam.
Le Nuoc Mam.
Oui.
Ça va faire plaisir à Jean, ça, non?
Vous connaissez, Jean, vous connaissez le Nuoc Mam.
Moi, j'écoutais la musique avec quand j'étais petit. Non, ça n'a rien à voir.
Qu'est-ce que c'est, Jean, le Nuoc Mam?
J'entends la sauce, une sorte de sauce.
Ben, bien sûr, là. Bien sûr, c'est une sauce à base d'entrailles de poisson marinées.
Ah, très voilà. Bon. C'est parfait.
Je n'avais pas forcément la composition de la sauce.
Voilà, je pense que vous la dégusterez d'une manière complètement différente, mon cher Jean, quand vous rentrerez en Chine.
Non, mais vous allez voir, il y a beaucoup de choses dans le Nuoc Mam. Ah, oui, voilà. Et le Nuoc Mam a laissé beaucoup de traces digitales qui ne sont pas que des traces odorifères.
Très bien, on verra ça tout à l'heure. Mais écoutez, pour cette première de l'année 2016, on a décidé avec toute l'équipe de vous proposer quelques tendances dans le monde des nouvelles techno pour cette année 2016 qui commence. Nathalie, depuis l'atelier US.
Alors je dirais que l'année 2016 aux États-Unis va être une année charnière pour l'économie à la demande. Alors c'est un concept qui est arrivé maintenant, 2015 a été une grosse année avec Uber, Airbnb, etc. Mais là, ça va être une année charnière. Alors, rappelons-le, l'économie à la demande, c'est l'idée de satisfaire les besoins des consommateurs par un service immédiat. Donc, c'est comme ça qu'on a eu toutes ces boîtes de tech qui sont venues avec ces nouveaux services. Alors, ça a révolutionné les comportements, on est vraiment dans l'immédiateté. Et ça révolutionne aussi les fournisseurs, les acteurs, les fournisseurs de services, puisque eux, ils vont devoir adapter leur modèle et être dans un modèle plus d'abonnement à un service plutôt que d'être dans un modèle où on est propriétaire d'un bien et puis on l'utilise. Donc ça, voilà, ça révolutionne et l'offre et la demande. Et je sais pas vous, mais moi, cette innovation technologique me rappelle un peu les progrès d'Internet au début des années 90, où on revit ce côté convenience, ce côté praticité du net avec ces services dont on dispose. Alors ça peut être se faire livrer un repas tout de suite, ça peut être commander un chauffeur privé, ça peut être avoir un jardinier. Et on voit du coup que des nouveaux usages sont nés et vont continuer à se développer en 2016. Alors on voit aussi que pour l'instant, c'est pas toujours vu comme une innovation sociale, puisqu'en fait, cette économie à la demande, c'est aussi, aux États-Unis, ça résonne beaucoup comme l'économie des petits boulots. Et du coup, ça va être un passage en 2016, je pense, important à passer. Par exemple, les chauffeurs Uber se plaignent de plus en plus.
Oui, mais une certaine précarité.
Oui, tout à fait. Voilà, pour répondre aux services quand on en a besoin, et du coup, finalement, ça devient assez précaire. Donc, les acteurs aujourd'hui ont plutôt basé leurs services sur ce qu'on appelle aux États-Unis les contractors, donc ces gens qui sont freelancers et qui n'ont pas du coup de garantie de volume d'emploi ou de sécurité sociale. Et on voit que le modèle est en train d'être discuté. Et même Obama a pris parti en disant qu'il fallait trouver un modèle in between, je dirais, entre le modèle salarié et puis le modèle freelance. Et Il y a des startups qui commencent d'ailleurs à travailler un modèle où ils seraient basés plus sur des collaborateurs employés avec des avantages sociaux comme Moncherie qui a ouvert la tendance. Mm-hmm. Voilà, donc selon moi c'est une tendance de fond avec des modèles qui sont un peu fragilisés, donc les acteurs ont vraiment besoin en 2016 de faire attention à ce point-là pour qu'on continue sur une belle progression.
Voilà, la tendance 2016 de Nathalie Doré de l'atelier US. Jean de Chambure, alors, votre tendance à vous pour cette année qui débute?
Alors, une tendance, c'est plus une tendance qui est en train d'arriver, de se dessiner. Clairement, l'année dernière, c'était l'apogée du mobile. Les Chinois n'ont jamais acheté autant de téléphones mobiles que l'année dernière. C'est ce qui explique le bénéfice d'ailleurs historique d'Apple, par exemple.
Les non-chinois n'ont jamais acheté autant de téléphones mobiles chinois que l'année dernière aussi.
Oui, absolument. Ah oui, notamment Xiaomi, qui a fait un très très gros succès. Huawei, tout ça, tous ces grandes fabricants de téléphones.
Huawei.
Ah, vous dites. Alors, dites-le.
Alors,
excusez-moi, justement, c'est très bien. Attendez, là, ça demande qu'on s'arrête une seconde. Jean de Chambure étant maintenant quasi chinois, il prononce correctement ce nom de très beau téléphone, cette marque de très beau téléphone qui s'appelle pour nous Huawei. Voilà. Et donc, comment on doit dire, mon cher
Jean? Écoutez, le pinyin, donc normalement le H en pinyin c'est un R, donc c'est, et le U est un U, donc c'est Huawei et Wei.
Voilà, Huawei.
Huawei.
D'accord.
Voilà. Huawei. Et excusez-moi, je vous ai dit Huawei parce que c'est l'avenue où j'habite, qui est l'une des grandes batailles de Mao.
Hein, ah oui.
Donc voilà, donc j'habite avenue Huawei moi.
D'accord.
Et donc là c'est Huawei.
Parfait.
Petite subtilité.
Le mobile, Jean.
Il faut surtout bien avoir le pinyin en tête pour le voir.
Alors, pour vous, c'est le mobile.
Ben, voilà, c'est le mobile, c'est la tendance de l'année dernière, clairement. Mais cette année, je pense que c'est plutôt, on voit des signes, en tout cas, un certain nombre de rachats de start-up qui ont été faites par les grands géants de l'Internet, les fameux BATS. C'est l'arrivée des objets connectés. Il y en a de plus en plus. Que ce soit dans le domaine de la santé, de la maison, de l'entertainment, il y a des pianos, des guitares connectées, il y a des réfrigérateurs, il y a des horloges, il y a des balances, il y a des lits, il y a des brosses à dents, il y a des baignoires. Enfin, tout est en train de devenir connecté.
Des baignoires connectées, oui, en Chine.
Absolument. Des machines à laver, des tables allongées. Enfin, tout est en train de devenir progressivement connecté. Avec cette idée très simple, c'est que, ben voilà, ça reste quand même très commercial. Vous n'avez plus ce matériel ou vous ne disposez plus de tel ou tel objet, tac, vous avez un appel à pouvoir recommander tout ça. Et comme il y a une économie quand même logistique, parce qu'on parle beaucoup du e-commerce digital en Chine, mais c'est d'abord les formidables livreurs en scooter ou en triporteur qui amènent les marchandises. Il faut se rendre compte de ce que ça peut être à Shanghai, par exemple, l'énergie qui est déployée par toutes ces personnes pour amener en un temps record les livraisons, pas toujours les bons produits d'ailleurs, il faut recommencer. Enfin bon, ils se déplacent très très vite. On peut imaginer que ça va se développer beaucoup l'année prochaine, aussi avec quelques idées d'économie d'énergie, parce que vous savez que le plan là du gouvernement chinois a des mesures qui vont arriver assez strictes pour les ménages, puisqu'aujourd'hui la gestion des ordures n'est pas excellente, et là ils vont aussi mettre la pression là-dessus pour essayer de s'organiser et évidemment lutter contre la pollution.
Très bien. Aurore Géraud, la tendance d'Aurore pour l'année 2016.
Ma prédiction.
Oui.
Ma prédiction.
Votre boule de cristal.
Oui, je prédis qu'il y aura plus de licornes européennes, voire peut-être françaises.
Ah.
Qui sait. Actuellement, on est à...
peut-être pas, non. Il ne faut pas exagérer quand même.
Il ne faut pas exagérer. Actuellement, on en a 13 européennes sur 145. On peut rappeler qu'il y a Blablacar en France, notre unique. Donc, mais j'espère quand même qu'il y en aura plus l'année prochaine. Shazam, Rocket Internet, TransferWise. Alors pourquoi je prédis cette montée des licornes européennes? Alors déjà, c'est une question de timing. Alors selon une étude d'Atomico, qui est une société de capital risque, la majorité des startups européennes qui sont donc des licornes datent de 2011, enfin leur date de création est de 2011 ou avant. Sachant qu'il faut, alors d'après une autre étude, qu'il faut 6 ans en moyenne pour atteindre le milliard de dollars, et vu le nombre de startups créées ces dernières années, on peut... Ouais. Envisager.
Elle devrait être mûre cette année.
Elle devrait être mûre.
Cette année, d'accord.
Ensuite, c'est deuxième petite tendance, enfin, du coup, qui va dans ce sens-là, c'est les investissements qui viennent des US. Alors, les investissements, les sociétés de capital risque qui se lancent vers le marché européen sont de plus en plus nombreuses. On pense notamment à Sequoia et Goldman & Sachs qui font partie des 25 investisseurs les plus actifs en Europe, ou Union Square Venture qui a utilisé 25% de ses investissements directement vers l'Europe. Donc pas mal d'investissements des États-Unis qui laissent entendre que peut-être les licornes européennes vont éclore.
Sans voler.
Oh, c'est joli.
Oh, c'est mignon. Mais ça, c'est le côté princesse de Lila. On peut pas y échapper.
Et donc ensuite, autre point qu'il laisse entendre, c'est une accélération des entrées en bourse. En France, on va parler de la difficulté actuellement showroom privé. Il me semble que la cote est baisse petit à petit, donc pas très sympa. Et Deezer a retardé, mais du coup a retardé peut-être pour mieux s'envoler effectivement l'année prochaine. On peut attendre ça.
On leur souhaite.
Et enfin, petit travail d'internationalisation qui pourrait aussi donner cette impression de grandeur. On voit notamment cela avec le French Tech Ticket. Donc voilà, plusieurs éléments qui me laissent entendre que l'année prochaine sera l'année des licornes, notamment en France.
Le French Tech qui s'est lancé à Shanghai d'ailleurs.
En plus, très bien. Antoine Cyr, votre tendance pour l'année 2016? Attention, la France vous écoute.
Eh bien, écoutez, je pense que...
Écoutez... Ça commence bien comme ça.
L'année 2016 devrait voir la poursuite de l'essor des robots cognitifs.
C'est beau, c'est magnifique. Ouais. Merci beaucoup Antoine. Lila,
on
a vu un certain nombre d'arrivées. Et alors je vais vous donner l'exemple d'un qui me plaît beaucoup, qui est le. Alors d'abord il s'appelle Spencer. Donc Spencer, c'est pas du tout, évidemment, c'est un acronyme parce qu'à chaque fois c'est non. Voilà.
Mais oui. Il s'appelle pas Spencer comme ça.
Non. Donc là en fait il s'appelle Spencer parce que c'est Social Situation Aware Perception and Action for Cognitive Robots.
C'est mieux Spencer.
Voilà. Donc, du coup, il s'appelle Spencer, le gars.
Ouais.
Donc, en fait, Spencer, c'est, il ressemble un peu à une borne, Spencer.
Un peu à des deux,
voilà.
Des R2.
Oui. C'est, voilà, une espèce de borne, mais il est quand même à roulette, donc il peut circuler. Et il a une espèce de moniteur sommital qui ressemble un peu à une tête.
D'accord.
Voilà. Bon, et donc il est capable d'écouter et de parler en plusieurs langues. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il accompagne les voyageurs, il leur montre la direction du terminal.
Ah oui, c'est une hôtesse.
C'est une hôtesse de d'indication des directions. C'est un guide, en fait. C'est un robot guide. Et donc, c'est le terminal de l'aéroport de Schiphol, qui est l'aéroport donc d'Amsterdam, où semble-t-il un nombre particulièrement important de touristes se perdent, ce qui a conduit.
D'ailleurs, il y en a qui restent perdus des années dans l'aéroport.
ce qui a conduit la compagnie KLM, donc partenaire d'Air France, et donc la grande compagnie néerlandaise à s'associer avec la start-up suisse Bluebotix pour accompagner donc cette évolution, cette invention de Spencer, qui est donc ce robot qui accompagne et empêche les gens de se perdre.
On verra si c'est une tendance, mon cher Antoine, mais c'est très intéressant. Lila, votre tendance pour l'année 2016.
Tendance qui, je souhaitais ajouter, tendance qui est également confirmée par Serge Tisseron, qu'on avait reçu sur le sujet l'empathie artificielle. Assez rapidement, moi je parie sur l'essor la réalité augmentée et virtuelle. Assez rapidement, il y a une étude du cabinet DigiCapital qui révèle que le marché mondial de la réalité augmentée et virtuelle devrait atteindre 150 milliards de dollars d'ici 2020. C'est la réalité augmentée qui prendrait les trois quarts du gâteau, 120 milliards. Alors quelques indices parsemés ça et là qui me portent à croire que ce serait bel et bien l'année de la réalité augmentée. On a, rappelez-vous, l'exemple des GAFA en 2014 entre Facebook et son petit 2 milliards, notamment avec l'acquisition de l'Oculus Rift. Google qui a investi un demi-million dans la start-up de réalité augmentée israélienne Magic Leap. Alors cette année,
ce sont tout simplement les géants de l'électronique grand public qui s'apprêtent ou qui ont déjà lancé chacun leurs produits. Mmh. Alors Samsung qui a déjà lancé son Gear VR,
Exactement, oui.
Microsoft son HoloLens et Asus qui a confirmé travailler sur un projet de réalité augmentée qui devrait être lancé en 2016. Et on en parlera dans quelques minutes. Les applications également industrielles de réalité augmentée avec Renault, Airbus et SNCF qui se sont en du sujet.
Voilà, et puis la réalité virtuelle, ces masques de réalité virtuelle qui ont l'air d'être au cœur de ce CES de Las Vegas qui se déroule actuellement donc à Las Vegas, je le disais, dans le Nevada, et on en parlera tout à l'heure avec Nathalie Doré et avec mes invités, puisque c'est un atelier un peu spécial, voire beaucoup spécial quand même, CES de Las Vegas. Vous restez avec nous, justement, on sera au CES dans quelques minutes avec Nathalie Doré, et puis juste après notre focus start-up et notre enquête de l'atelier. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique, vous le savez, sur BFM Business, chaque samedi 16h-18h, toute l'actualité high-tech. On vous avait promis une bonne partie dédiée à Las Vegas, ça sera le cas tout à l'heure avec Nathalie Collin, qui est la directrice générale adjointe de La Poste, qui répondra à mes questions. Et puis on s'intéressera aussi à un grand groupe d'énergie, Engie. Que fait Engie au CES de Las Vegas? On verra ça tout à l'heure. Mais dans l'immédiat, c'est Nathalie Doré, vous le savez, la directrice de l'atelier US, qui est à mes côtés, qui a fait le voyage ici à Las Vegas. Bonjour Nathalie.
Bonjour François.
Alors, tes coups de cœur Nathalie, il y en a quand même pas mal. On va peut-être commencer par la French Tech qui est vraiment présente ici.
Oui, alors c'est sûr, 190 startups, hein, on les voit en plus, elles sont toutes regroupées sur le Eureka.
Avec le petit coq.
Avec le petit coq, donc très très visible. Et c'est rigolo parce qu'on a retrouvé en fait un coup de cœur de l'année dernière. Alors pour les auditeurs qui s'en souviennent, c'était Toadé Sound Lab, qui est toujours avec son casque donc de son spatial, mais qui l'a franchi une étape de plus, puisqu'en fait, jusqu'à maintenant, il vendait le casque, on va dire, stand-alone avec la technologie. Et le marché n'est pas encore très très mûr sur le fait de se dire « je vais me lever le matin en me disant « je vais m'acheter aujourd'hui un casque spatial ». Donc ce qui est rigolo, c'est que ils vont maintenant plutôt chercher des partenaires et s'intégrer dans des devices qui sont pas forcément que des casques, donc notamment et là c'est très intéressant, les jeux vidéo, puisqu'on le voit, il y a eu beaucoup de choses faites sur l'immersion visuelle avec les casques type Oculus, mais on se rend compte finalement que l'expérience immersive, si elle n'est que sur la vue, elle est un peu décevante. Donc rajouter du son, ça a vraiment de la valeur, et Trade Sound Lab a vraiment une bonne carte à jouer là-dessus.
Oui, c'est vrai qu'un son 360 associé à une image 360, là ça a du sens, bien sûr. Autre coup de cœur, c'est Friction Science.
Oui, alors c'est aussi une start-up française qui est d'ailleurs présente en France et aux US. Et là, on change complètement de domaine, d'univers, puisqu'on va dans l'agriculture. Friction Science, en fait, eux, ils proposent des trackers qui se mettent sur les plantes et qui vous permettent d'avoir des données temps réel, concrètes, etc. Et globalement, ça vous permet de mieux arroser la plante, et souvent, d'ailleurs, c'est moins arroser la plante. Donc, on se rend compte qu'on fait des économies en termes d'eau et qu'en plus, c'est bénéfique pour la récolte. Donc, c'est vraiment coût double. Et Friction Science ont d'ailleurs eu un beau partenariat avec la ville de Los Angeles qui a fourni ces trackers aux agriculteurs pour permettre d'économiser beaucoup d'eau. Alors en temps de sécheresse, c'était un gros plus.
Ça risque d'être une problématique de plus en plus évidente, hein, le problème de l'eau. Autre sujet lié, on va dire, à la French Tech, c'est PayPal. Alors PayPal, c'est pas une start-up française, hein, loin de là. C'est le géant du paiement américain. Mais PayPal s'intéresse justement aux start-up françaises.
Oui, alors en effet, on a rencontré PayPal France. Et c'est rigolo parce que ça nous rappelle que l'écosystème French Tech, c'est pas que des start-up, c'est aussi ceux qui veulent aider les start-up, qui veulent aider dans leur développement. Et PayPal, en fait, ils aident donc les start-up, notamment françaises, qui ont des sites e-commerçants, à améliorer leur site. Donc ça passe de améliorer le parcours client, mesurer la satisfaction client, et PayPal, dans ce domaine-là, a des beaux retours d'expérience, donc ils mettent ça au service de leurs clients. Et il y a encore énormément de choses à faire en France, puisqu'en fait, François, tenez-vous bien, aujourd'hui, moins de 10% des sites marchands français sont en anglais. Donc il y a quand même 90% des sites qui ne sont que en langue française. Donc
PayPal pourrait accompagner tous ces sites justement vers la possibilité d'aller vers une langue anglaise, etc., de faciliter le parcours client. Et puis après, j'imagine que pour PayPal, c'est important. ils espèrent que ces services-là adopteront leur système de paiement.
Voilà, exactement. Le modèle, il est simple. Ils aident, bien sûr, avec tous ces services. Et derrière, ils espèrent bien que la transaction du site commerçant se fera avec PayPal. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, puisqu'en fait, le responsable de PayPal France me disait qu'il y avait 150 000 sites commerçants en France pour 2,5 millions de sociétés en France. Donc voilà, il y a encore une bonne digitalisation des entreprises françaises à faire.
Il y a encore du chemin, en effet. Voilà pour la French Tech. On va parler maintenant de la santé. La santé qui est évidemment omniprésente. Hein. Il y a des halls entiers dédiés à la santé, santé connectée, etc. ici au CES de Las Vegas. Qu'est-ce que tu as vu d'intéressant ?
Alors, toujours énormément de fitness, de bien-être, de prévention. Alors, un petit coup de cœur pour MyBiody, qui propose un device, en fait, Biody Expert, qui mesure la résistance des tissus biologiques. Alors, ça s'appelle l'impédance. Et, en fait, en 3 secondes, vous touchez l'objet avec vos mains et vous le mettez contre votre pied. En 3 secondes, il vous donne l'état de votre masse graisseuse. Alors, ça fait plaisir ou pas. De votre masse musculaire, votre masse osseuse, votre os. Donc voilà, ça vous donne un check-up complet sur où vous en êtes. Donc c'est assez sympa.
En 3 secondes ?
En 3 secondes.
En 3 secondes, on est démoralisé.
C'est un peu ça. Mais après, on a un coach pour vous aider et pour remédier à tout ça. Donc on a encore énormément cette année d'objets connectés. Voilà, ça reste une grosse tendance du CES 2016. Par contre, on voit qu'on évolue quand même dans la santé vers ces sujets de santé de précision. Alors on a interrogé les gros comme Fitbit. Alors pour l'instant, Fitbit reste beaucoup sur le fitness et le bien-être et la prévention. Par contre, on a croisé le fondateur de WeThings, Eric Carrel, qui disait qu'en effet, c'était un des axes qu'il souhaitait développer, aller plus vers de la santé de précision pour derrière être meilleur sur les aspects maladie, traitement des maladies. Donc ça, c'est vraiment un sujet intéressant. Et sur la santé, on voit aussi des balbutiements sur la génétique. Donc on a rencontré une start-up américaine là, qui a fait une grosse levée de fonds, hein, 12 millions de dollars en décembre dernier, c'est Origin 3. Et eux, en fait, ils sont prêts d'un point de vue technique à faire des tests sur les cellules, donc ça marche. Par contre, d'un point de vue régulation, aujourd'hui, ils limitent leur offre à avoir un test sur votre profil génétique en termes de fitness, justement, en termes de qualité de la peau, mais ils ne vont pas sur la détection des maladies pour des raisons de régulation pour l'instant.
Oui, parce que évidemment... Dans notre patrimoine génétique, on peut détecter plein de choses. Évidemment, si on est, par exemple, sensible à certaines maladies, etc. Donc là, c'est vrai que ça pourra peut-être arriver un jour, mais en tout cas, ils ne sont pas prêts. Encore, tiens, autre thème intéressant, c'est l'automobile, Nathalie. L'automobile, alors, qui est de plus en plus présente. Et on se rend compte que finalement, il y a de nouveaux acteurs qui arrivent. Et puis, il y a aussi les constructeurs automobiles traditionnels qui viennent ici à Las Vegas, peut-être pour aussi redorer leur blason, changer leur image et présenter des nouveautés.
Alors, en effet, l'automobile a été arrivée l'année dernière, hein, au CES de 2015. Et cette année, je dirais, c'est vraiment le mariage, hein, des constructeurs traditionnels et des gros acteurs de la tech. Donc, on a eu General Motors qui a annoncé son partenariat avec Lyft pour un taxi autonome. On a eu Ford qui a annoncé son partenariat avec Amazon pour se connecter à sa voiture de la maison. Donc, on voit, en fait, on l'avait dit d'ailleurs précédemment, que Détroit se déplaçait à San Francisco, hein, avec ses acteurs de la tech. Et ben voilà, les mariages sont maintenant consommés à Las Vegas entre ces grands acteurs de la tech et de l'automobile.
Voilà, et alors il y a des petites startups étonnantes qui misent en fait sur le fait de pouvoir personnaliser sa voiture à outrance. En fait, on construit sa voiture sur Internet et après on vous la construit. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez, c'est assez étonnant. Et c'est une startup française d'ailleurs. Merci beaucoup Nathalie. Je te laisse arpenter encore pendant quelques heures les allées de ce salon du CES de Las Vegas. Et on se retrouve la semaine prochaine depuis, évidemment, les studios San Francisco. Merci beaucoup, Nathalie.
Merci, François.
Directrice, vous le savez, de l'atelier US. On va revenir, évidemment, au CES de Las Vegas. Ça sera en deuxième partie de l'atelier tout à l'heure avec La Poste et la stratégie de La Poste et aussi Engie. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Restez avec nous sur BFM Business. Dans un instant, on va parler de réalité augmentée virtuelle avec des cas concrets dans des applications industrielles. Ça sera notre enquête de l'atelier. Mais auparavant, notre focus startup. Et le focus startup de cette semaine, c'est avec vous, Aurore Géraud.
Oui, François. Alors, pour le focus startup de cette semaine, nous ne sommes pas au CES pour notre part. Nous sommes bel et bien toujours à Paris. Et avec moi aujourd'hui, Vincent Léry, qui est président de Impact avec un K, et qui va nous en parler un petit peu plus. Vincent, bonjour.
Bonjour.
Alors du coup, qu'est-ce que Impact ?
Alors Impact, c'est une solution collaborative tout simplement pour associer simplement les collaborateurs à la responsabilité sociale des entreprises.
Alors aujourd'hui, je suis une petite ETI. Comment fonctionne la plateforme ? Qu'est-ce que je fais pour motiver mes collaborateurs ?
Alors le principe d'Impact, c'est de proposer aux collaborateurs des actions. Ça peut être par exemple inciter vos collaborateurs à faire du covoiturage, les inciter à faire du mécénat de compétences, c'est-à-dire déléguer des compétences auprès d'associations locales. Ça peut être changer sa politique d'achat pour qu'elle soit plus responsable. Et les collaborateurs vont valider ces actions lorsqu'ils le font, éventuellement en y associant des photos et un texte personnalisé. Et tout ça, en fin de compte, à la fin, va générer collaborativement un rapport RSE qui sera présentable aux parties prenantes pour valoriser ce que fait l'entreprise en termes de RSE.
Quelles sont les actions que les entreprises aiment mettre en avant ?
Alors pour l'instant, c'est principalement des actions de type éco-gestes, donc des petites choses à faire tous les jours, mais qui collectivement ont du sens. Et ensuite, on est en train de monter une plateforme qui va recenser tous les acteurs locaux, comme des associations ou des économistes de l'économie sociale et solidaire, qui vont proposer à leur tour des actions.
Et comment on gamifie ces actions ?
Alors c'est très simple, lorsqu'on
bravo politico d'avoir
et certaines actions ont des badges associés, donc on va au fur et à mesure de par exemple que l'on fait des éco-gestes, au bout de 10 covoiturages, on va avoir un badge super covoitureur. Et en même temps, les points vont être transmis à nos équipes, donc généralement des services, et on organise une émulation entre tous les services pour inciter vraiment via l'émulation à agir.
Donc ce n'est pas votre première start-up, vous aviez proposé il y a quelque temps WeAct. Donc c'est un dérivé. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette première start-up ?
Oui, bien sûr. Donc effectivement, Impact est un dérivé de WeAct, qui est en fait le pendant citoyen d'Impact, qui consiste en fait à inciter tous les citoyens à agir. Donc de la même façon, ça peut être des éco-gestes, ou auprès d'associations locales, ou auprès de l'économie sociale et solidaire, de faire de la consommation responsable, etc. Donc cette partie est toujours active, et on a signé un partenariat avec une communauté urbaine de l'Orne pour 2016, pour vraiment que les pouvoirs publics s'approprient cette plateforme et la fassent vivre.
Et c'est exactement le même principe. Les objectifs sont impulsés donc soit par une collectivité, soit par des associations directement.
Oui, tout à fait. Donc les associations peuvent créer ce qu'on appelle des missions, donc venir consommer ce produit qui est responsable chez moi, venir faire un bénévolat chez moi. De même que la collectivité peut aussi créer des actions, par exemple installer des composteurs chez soi, etc. Et tout ça est mis en valeur sur WeAct, car on voit réellement ce qui est fait au jour le jour. Et on est capable évidemment de fournir des statistiques aux collectivités pour qu'elles puissent piloter de manière intelligente ces actions-là.
Et si je suis citoyen, est-ce que j'ai la possibilité moi aussi de proposer des missions ou des projets ?
Pour l'instant, en l'état, c'est quelque chose auquel on réfléchit, mais non, pour l'instant, en l'état, ça n'est pas fait.
Et donc, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite ?
Ah ben, on nous souhaite tout simplement de développer la partie et entreprise qui a déjà des premiers retours sympathiques. On a déjà signé quelques clients, dont des grosses entreprises en France, et de développer parallèlement, ce qui est assez ambitieux, la partie citoyenne. Et donc évidemment, on a prouvé le concept, et là on va aller en recherche de fonds évidemment. On va nous souhaiter de trouver des partenaires qui soient intéressés par ce projet assez assez particulier et innovant.
Merci beaucoup Vincent.
Je vous en prie, merci à vous.
Merci beaucoup Aurore. Et place à notre enquête de l'atelier, cette fois-ci avec vous Lila. On va s'intéresser aux applications industrielles de la réalité augmentée et virtuelle avec des cas concrets de grandes industries françaises.
Oui François, alors effectivement je vais un peu poursuivre ma saga autour de la réalité augmentée et virtuelle en vous parlant des applications industrielles de la réalité augmentée et virtuelle avec trois invités. On recevra les témoignages à la fois de Renault, d'Airbus par sa filiale Testia et également la SNCF qui se sont tous, vous le verrez, emparés du sujet et pas pour faire joujou. Andrés Kemeny, bonjour.
Bonjour.
Andrés Kemeny, vous êtes directeur du laboratoire d'immersion virtuelle de Renault. Alors racontez-nous un peu. Comment Renault s'est emparé du sujet de la réalité virtuelle et augmentée ? Aujourd'hui, quelles en sont les applications concrètes ?
Alors avec la réalité virtuelle qui est arrivée un petit peu plus récemment chez nous, avec un certain nombre d'avantages par rapport à l'utilisation des casques, qui est un petit peu intrusif et moins collaboratif, on peut immerger le concepteur dans un véhicule. Alors pour les applications... À part l'architecture du véhicule, l'interface aux machines, l'ergonomie, la qualité perçue. Nombreuses applications sont possibles avec un retour sur investissement très important, mais aussi en réduisant le délai de conception.
Est-ce que ça vous permet de faire une forme de proof of concept de certains concepts d'automobiles ou de systèmes ?
Alors, un exemple est l'ambiance lumineuse dans nos véhicules, une application qui est arrivée chez nous il y a à peu près 2 ans. Et par exemple, sur le nouvel espace, tout ce qui est guide de lumière, notamment avec l'application Multisens, qui permet de passer d'un mode à l'autre, était validé en réalité virtuelle dans notre cave.
Alors vous avez participé au Laval Virtual Days. C'est en cette occasion qu'on se rencontre. Vous avez évoqué notamment pendant votre présentation la piste des véhicules autonomes. Quelle pourrait être l'intégration de la réalité augmentée et virtuelle dans le véhicule autonome ?
Alors quand on parle de véhicule autonome, souvent on pense à un véhicule qui est complètement autonome. Mais avant d'y arriver, et on a encore peut-être 10, 15, 20 ans jusque-là, on a plusieurs niveaux d'intégration avec plusieurs systèmes autonomes, mais avec le conducteur ou la conductrice dans la boucle. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que par exemple, le conducteur suit ce que le véhicule fait et peut reprendre la main si nécessaire. Alors, pour reprendre la main, il faut avoir des informations qui vont bien. Donc en fait, par exemple, sur le pare-brise, il y aura beaucoup d'informations embarquées, affichées, ce qu'on appelle la réalité augmentée.
Andrés Kemeny, merci beaucoup. Je poursuis notre petit tour. Philippe David, bonjour.
Bonjour.
Alors Philippe David, vous êtes chef de projet à la direction de l'innovation et de la recherche d'SNCF. Alors dites-nous un peu, quelles sont les applications de la réalité augmentée et virtuelle chez la SNCF ? Comment vous êtes emparé du sujet ?
Alors la SNCF s'est intéressée à la réalité virtuelle dès 1995, c'est à peu près la date de création de la Laval Virtual d'ailleurs, et initialement on pensait que ce serait un domaine qui serait très utilisé dans le domaine de l'ingénierie, de la conception du matériel, de la revue de projet, etc. Et en fait on s'est aperçu que c'était le domaine de la formation qui prenait le mieux. Et donc très vite on a investigué ce domaine et on a conçu des applications de formation utilisant la réalité virtuelle pour différents métiers de l'entreprise, et, donc que ce soit pour les gens de l'infra, pour des conducteurs de train, pour des agents du fret, voilà. Ensuite est apparu un petit peu après la réalité augmentée, qui aujourd'hui est un petit peu le vivier du domaine du virtuel, et cette fois on s'intéresse toujours bien sûr aux agents, mais aussi à l'usage de l'ARA pour les clients ou par les clients qui sont dotés aujourd'hui de smartphones avec des capacités graphiques assez importantes, avec beaucoup de capteurs, et quand on mélange tout ça, on a des usages qui sont extrêmement intéressants.
Est-ce que vous pourriez donner un ou deux exemples concrets ? Alors commençons vous avez évoqué la formation notamment auprès de certains métiers. Est-ce que vous avez un exemple appliqué ?
Oui, alors je peux vous en donner deux qui sont un peu emblématiques des travaux qu'on a réalisés. Le premier, c'est la formation des conducteurs de TGV au contrôle et à la manœuvre d'aiguillage. Lorsqu'il y a un problème d'aiguillage en voie, il est très difficile de faire intervenir un personnel extérieur. Donc on demande au train qui est arrêté là et qui est un petit peu en difficulté d'aller vérifier lui-même les installations. Mais c'est un peu comme demander à un conducteur de poids lourd d'aller réparer une barrière de péage. Donc c'est pas vraiment son métier. Et ce sont des tâches qui sont très très rares et qu'il est difficile de réaliser sur le terrain. Donc le virtuel trouve tout son intérêt puisqu'on recrée une situation de formation très réaliste, mais sans danger et sans impacter l'exploitation ferroviaire. Le deuxième exemple, c'est la formation des agents du fret au contrôle des wagons qui doivent être absolument vérifiés avant de partir sur les voies. Ils sont chargés par des particuliers, par des usines, par des entreprises, et des agents du fret doivent vérifier que le chargement est conforme et aussi que le wagon est apte à rouler. Or, pour réaliser ces formations-là, on a besoin d'un très grand nombre de wagons. Ils sont des matériels qui sont difficilement mobilisables. On ne peut pas mettre des wagons dans des salles de cours, etc. Et ces agents sont répartis sur tout le territoire. Donc le virtuel, là encore, permet de pallier des difficultés matérielles et de former des agents au plus près de leur lieu de travail, à moindre coût et avec une efficacité qui est presque égale à une intervention sur le terrain qui est souvent contraint par des considérations climatiques ou de temps de trajet, etc. Donc c'est vraiment deux exemples qui montrent l'intérêt du virtuel pour la formation.
Est-ce que vous constatez que l'usage de la réalité virtuelle dans la formation est pertinente pour tous les métiers ?
C'est pas forcément... à chaque fois, c'est du cas par cas. Il va falloir étudier quel est le savoir qui est indispensable et de quelle façon il va se transférer du réel au virtuel. Donc, il est très, très difficile de généraliser parce que c'est une étude un petit peu fine où on va essayer de voir dans quelle mesure les automatismes qu'on va pouvoir développer en virtuel seront utilisables dans le réel. Donc lorsqu'on est sur des tâches qui sont liées à la sécurité, il faut être assez prudent puisque dans le cerveau, on se fabrique un petit peu deux zones. Hein. Une zone virtuelle dans laquelle on a eu les formations et puis après, il va falloir la confronter au terrain pour que ce transfert se fasse. Et ce transfert n'est pas automatique. Hein. Le cerveau sépare bien le virtuel du réel parce qu'on n'est pas encore à réussir à faire un virtuel qui soit complètement crédible. Mais lorsque ce sera le cas, on pourra dire qu'on sera pratiquement dans une situation réelle, mais avec la magie de la technologie, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir faire émerger des choses énormes, de pouvoir voir à travers la matière, de pouvoir comprendre des choses que permet la réalité virtuelle, qui là est un atout, hein, où on peut se permettre de faire de la magie. C'est-à-dire que effectivement les processus qui sont dans la réalité peut-être trop rapides et donc pour être observables, on peut les ralentir et là on a des aspects pédagogiques qui sont mis en exergue par cette technique-là.
Philippe David poursuit notre petit parcours, on va s'envoler vers Testia, c'est le cas de le dire, vous verrez. Franck Bonnard, bonjour.
Bonjour Lila.
Franck Bonnard, vous êtes programme manager chez Testia, qui est une filiale d'Airbus. Alors, dites-nous un peu comment Testia s'est intéressée, emparée du sujet de la réalité virtuelle et augmentée.
Alors en fait, en 2011, Airbus, pour ses propres besoins industriels, a développé une solution de réalité augmentée pour le contrôle de ses pièces qui montent dans les avions. Et depuis 4 ans maintenant, c'est en opérationnel, avec un gain de productivité assez phénoménal. Ils ont divisé le temps d'inspection par 5. Et fort de ce constat, en fait, Airbus a décidé de proposer sa solution aux autres industries, aéronautiques et diverses autres industries. Mais le but d'Airbus, c'est pas de vendre des solutions de réalité augmentée ou virtuelle, c'est de vendre des avions avant tout. Donc il a mandaté sa filiale Testia, qui fait à la base du contrôle non destructif et qui maintenant fait du contrôle qualité, qui donc Testia se charge de la commercialisation de cette solution de réalité augmentée.
Alors, en quoi consiste cette solution de réalité augmentée ?
Donc c'est basé sur une tablette tactile, qui est sous Windows, auquel on vient greffer un petit appareillage électronique avec une caméra haute définition, plus de l'électronique qui va permettre de faire le suivi de mouvement d'utilisateur. Dans cette tablette tactile, on va charger une maquette numérique, qui est l'image de ce qui a été développé dans la conception, avec des logiciels de CAO. Cette maquette-là, donc, à travers la tablette tactile et ce qui va être filmé du réel via la caméra supplémentaire, on va réussir à superposer ces deux images, l'image réelle et l'image virtuelle. Ça va considérablement aider le travail des opérateurs lors du contrôle de pièces dans les avions et dans les autres industries.
D'accord, donc finalement c'est un outil, c'est un assistant quelque part à l'inspection, à l'inventaire.
Tout à fait, puisque le but c'est pas de remplacer l'opérateur ni de remplacer sa tâche, c'est vraiment de lui apporter un outil qui va lui apporter un gain en productivité, d'optimiser les temps où avant il devait chercher où étaient les pièces, maintenant ça se fait tout seul. Et puis ça génère automatiquement son rapport, donc en fait il gagne énormément de temps par rapport à avant.
Est-ce qu'on pourrait imaginer que ces données récoltées à différents moments pourraient servir aux personnes qui gèrent à la fois la maintenance et la réparation ?
Alors absolument, puisqu'aujourd'hui ça a été déployé dans le cadre d'une chaîne de production, mais il faut savoir que ce n'est pas qu'un module qui sert à l'inspection des pièces, mais ça peut être aussi un module qui sert à faire du montage, mais aussi du démontage, donc pourquoi pas suivre une procédure qui va aider les opérateurs de maintenance à remplacer des pièces sur avion, sur voiture, sur train, sur bateau, pour adapter les évolutions matérielles du produit, ou bien simplement pour réparer les pièces défectueuses.
On pourrait imaginer ça dans 4, 5, 10 ans.
Non, ça existe déjà, c'est déjà opérationnel. Pareil, sur le même système que la tablette tactile. Donc plutôt que de contrôler les pièces, il y a un autre petit module qui permet de suivre une gamme de montage et éventuellement de démontage, qui permettrait à l'opérateur de maintenance de démonter les pièces défectueuses, d'installer les nouvelles, etc. etc.
Ben merci beaucoup, Franck Bonnard. Je rappelle, vous êtes programme manager chez Tessia.
Merci Lila, on revient dans un instant. À suivre sur BFM Business dans cet atelier, notre web stratégie. Et puis juste après, nous serons de retour depuis le CES de Las Vegas. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'actualité cette semaine se déroule à Las Vegas pour le CES qu'on va suivre dans quelques minutes. Mais auparavant, c'est notre web stratégie sur BFM Business dans cet atelier numérique. La web stratégie, c'est avec vous, Lila Megrawa.
L'atelier numérique sur BFM Business, la web stratégie.
Oui, François, alors cette semaine, on va s'intéresser à la stratégie digitale du groupe Center Park. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Vanessa Diria. Bonjour.
Bonjour Lila.
Alors Vanessa Diria, vous êtes directrice générale adjointe de Center Parks Europe. Alors dites-nous un peu, où en est-elle cette transformation digitale de Center Parks? Est-ce qu'elle est, ça y est, elle est sur les rails?
Je dirais qu'elle est sur les rails, mais elle est au début de son histoire. Center Parks Europe, nous sommes un exploitant de parcs. Toute la partie, on va dire, amont, sales and marketing, comme tous les grands acteurs du tourisme, ça fait longtemps que nous sommes digitaux, que nous vendons essentiellement sur le web et que la data client est au cœur de notre approche. Nous avons toujours été des vendeurs directs. Donc, sur cette partie-là, je veux dire, on est avancé, bien avancé, mais comme le secteur du travel en règle générale, ni plus, ni moins que les autres. C'est un secteur qui se réinvente au quotidien et nous essayons de suivre cette rapidité de réinvention des approches marketing, commerciales, toujours plus efficaces en amont. La grande évolution qu'est en train de faire Center Parks, c'est de travailler vraiment l'expérience client pendant le séjour et de connecter ce pendant le séjour, donc l'expérience locale qui a lieu sur chacun des parcs, avec une approche générale. Donc le premier enjeu, déjà, c'était d'unifier les datas, d'unifier les systèmes d'information, de façon à ce qu'on puisse reconnaître nos clients avant, pendant et après le séjour de façon homogène. Donc ce que nous avons déjà fait, c'est de relier toute la transformation IT et de relier nos systèmes d'information locaux avec notre système d'information central.
Une fois que vous avez établi, que vous avez instauré ces processus, qu'est-ce qui se passe? Quels services ont émané?
Non mais tout à fait Lila, parce que le but n'est pas de relier des systèmes d'information, mais bien d'apporter des services à nos clients. Et donc le fait de relier ces systèmes d'information a été la base pour se dire quels services nos clients ont besoin et pourquoi je dois aujourd'hui développer des nouvelles fonctionnalités. Et donc on a développé des façons d'accueillir le client et on a développé des interfaces utilisateurs, et donc essentiellement mobiles quand on parle de consommation sur parc, des interfaces utilisateurs pour leur faciliter le séjour. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous êtes sur parc, vous pouvez télécharger votre application Planet Center Parks, qu'elle vous donne le programme des activités de la semaine, qu'elle vous donne bien sûr le plan. Vous êtes géolocalisé, parce que nos parcs avec entre 800 et 1000 cottages, ce sont des entités qui font 300, 400 hectares, donc il est bon de se géolocaliser. Et on met en place un certain nombre de services pour vous aider à faciliter votre séjour.
Alors par exemple pendant le séjour, à partir de mon mobile, qu'est-ce que je vais être en mesure de faire? Est-ce que je vais pouvoir régler d'avance une réservation faite pour une activité par exemple, ou sur site? Est-ce qu'on pourrait pas imaginer un service de paiement sans contact?
Alors oui, tout à fait. Deux choses. Le fait de relier ces informations et d'avoir cette information sur parc qui est reliée à l'information centrale, je vais vous donner un autre exemple. Le parc va savoir que pendant la réservation, le petit garçon qui s'appelle Bob, va avoir 6 ans. Et on va lui faire une surprise. Donc là, c'est du vrai service client. C'est-à-dire que Ori, le personnage mascotte de Center Park, va venir dans le cottage fêter l'anniversaire de Bob. Ça, c'est possible parce qu'on a relié les datas à les services d'info. Après, avec l'application Planet Center Parks, l'objectif est que vous puissiez très facilement réserver. Vous passez devant l'acrobranche, vous avez envie de faire de l'acrobranche. Pas besoin d'aller voir un desk ou un point d'info. Vous passez sur votre mobile, vous réservez l'acrobranche, vous payez et vous allez immédiatement faire votre activité. Et ça, c'est très simple et c'est très fluide. On a développé d'autres choses, pas forcément à partir d'une interface mobile comme un téléphone. Par exemple, on a développé un bracelet qui s'appelle l'EasyPass. Et avec l'EasyPass, vous pouvez, et vous devez, ouvrir et fermer votre cottage. Vous pouvez gérer votre casier dans les vestiaires de l'Aquamundo. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir de la monnaie ou d'être dans la piscine avec votre clé qui pend au poignet. Et bien entendu, avec ce bracelet, vous réglez que ça soit vos prestations de restauration, vos prestations de service, un Orangina au bar pour les enfants. Vous pouvez régler sans problème, facilement et sans avoir de porte-monnaie avec vous.
Si on pense prospective, qu'est-ce qu'on sera en mesure de faire demain à partir des données d'une data bien travaillée?
Alors, aujourd'hui déjà, rien qu'à partir d'une donnée data bien travaillée, je vous ai donné l'exemple de l'anniversaire, mais ce qu'on fait déjà aujourd'hui, c'est on analyse la façon dont nos clients se comportent sur site, et avec cette analyse de comportement sur site, pendant le séjour, on va leur envoyer des coupons spécifiques qui correspondent à ce qu'ils font, à ce qu'ils aiment, à ce que... Donc déjà, on adapte ce qu'on pousse comme activité vis-à-vis de ces clients-là pendant le séjour. Avec cette data-là, on optimise aussi l'ensemble des approches commerciales en amont, parce qu'après, pour le faire revenir, on va lui parler spécifiquement de services, d'expériences et de ce qu'il a vécu lui. Et on peut lui parler mieux. Mais quand on est un peu plus en prospectif, on peut imaginer énormément de choses avec de la data. On peut imaginer très clairement d'avoir de l'information sur les objets connectés, Internet of Things, tout le monde connaît. Je sais que le frigidaire de ma cliente est vide. Je lui pousse une information sur l'appli pour lui dire que mon service de delivery va venir lui remplir son frigidaire. On peut imaginer de réfléchir vraiment en prospective sur les réseaux intelligents. Maîtriser beaucoup mieux la consommation, maîtriser beaucoup mieux l'énergie sur nos parcs par ces réseaux intelligents et optimiser ainsi la fonctionnalité. Avoir un peu, comme vous le dites, une smart city à l'échelle de nos parcs. Donc la data et ce qu'on récupère comme data, il faut l'avoir certes d'un point de vue marketing commercial, mais ce que j'essaye de passer là, c'est que dans l'univers du tourisme, y compris dans l'expérience de vacances, on peut être très prospectif et construire aussi le monde de demain avec des modèles de réseaux intelligents, d'objets connectés. Et ça, ce sont des vraies révolutions auxquelles nous nous préparons. Donc on est au tout début de l'histoire, mais on espère ne pas louper le tournant, en tout cas chez Center Parcs.
Vanessa Diriard, merci. Je rappelle, vous êtes directrice générale adjointe de Center Parcs Europe. Merci.
Merci beaucoup, Lila. On revient dans un instant et direction Las Vegas pour le CES. À tout de suite.